Bonjour, c'est l'émission Les Amis d'Orwell sur Radio Libertaire 89.4, l'émission de Souriez, vous êtes filmé. Aujourd'hui, on va parler de Notre-Dame-des-Landes et au sujet de la répression, on va parler du matériel policier militaire utilisé sur la ZAD, la zone à défendre. On va également parler des aspects judiciaires de la répression.
J'ai pensé qu'il y en a assez, qu'on pourrait bien en arracher quelques-uns et les remplacer par quelque chose de bien plus classé. Je me suis dit qu'un aéroport ferait l'affaire avec ses Airbus, parce qu'alors il y en aurait deux au lieu d'un, il y en aurait encore plus.
Oui, car en fait, soi-disant, il y en avait déjà un là-bas qui fonctionnait.
Et j'en ai rien à battre, car c'est par moi que les ordres sont donnés. Puis ne le dites pas, mais ce dossier est surtout l'occasion de gagner un paquet de pognon pour Vinci. Et on est amis, je peux pas le nier.
Un petit milliard passerait ainsi des poches des citoyens français à celle de Xavier Huillard si j'arrive à faire taire les Nantais.
Et autres écolos aigris et militants déjanté, voulant m'empêcher de faire joujou avec l'argent des gens, c'est quand même un peu irritant. Et puis pas très juste navré, mais à quoi bon être élu président si on peut plus se marrer.
Voilà le genre de truc que je me dirais si j'étais dans le boys band présidentiel entre Valls et Héro, mais aussi bien d'autres scandes. Pas tous les noms de ceux qui veulent se rendre la poire, y'en a une bonne bande. Je serais le premier à le vouloir si j'étais ministre sous François Hollande.
Faut comprendre nos gouvernants, font un boulot exténuant, décompresse en gouvernant avec leurs projets consternants. Il faut pas leur en vouloir à tous ces gens au pouvoir qui se lèvent tôt et se couchent tard, ont bien besoin d'un défouloir. Le dégard pour nos ministres qui souvent ont une vie triste, les affaires qu'ils administrent leur donnent un air parfois sinistre. Sont un effort pour entendre qu'ils ont besoin de se détendre, c'est pas trop la pétante, donc ils s'attaquent à Notre-Dame-des-Landes.
Si j'étais dans le gouvernement héros, je me dirais que pour me détendre, je peux écouter le boléro, aller me balader dans les Flandres et y prendre l'apéro. Loin de la bande à Hollande, à distance de ces gros blaireaux, je pourrais aussi jouer les tendres, emmener Bobonne au resto pour changer des berlines allemandes, la faire voyager en métro, bouffer de mon filet de limande au Fouquet, je veux dire au McDo, avec l'argent que je truande, je veux dire avec celui du boulot. Oui, mais j'ai trouvé bien plus drôle, j'ai trouvé plus rigolo quelques militants stupides, gauchistes, anarchistes et écolos se battant pour un monde plus dynamique, la terre, de l'air et de l'eau, ardent que l'aéroport du Grand Ouest serait peut-être de trop. Sous le prétexte qu'on bétonne 2000 hectares de terre, qu'on déloge les autochtones à coups de flics et de militants. Envers et contre des tonnes de gens qui se révoltèrent et qui au passage s'étonnent qu'on dépense tant en période pourtant austère. Je leur ai envoyé 1200 policiers, militaires, 500 CRS et gendarmes aussi. Un hélicoptère pour larguer des grenades assourdies en pensant que ça les ferait taire. Ça et quelques lacrymos pour réprimer les plus réfractaires.
On s'est bien amusé, de la force on a usé, bien sûr sans en abuser, pour ne pas se faire accuser, on s'est donc mis à ruser.
Comment ça se passe, tu le sais, tu gazes le suspect, tu dis que c'est lui qui a commencé.
Voici le genre d'idée qui germerait d'ordinaire dans mon cerveau. Si j'avais un quelconque ministère avec un chauffeur perso, j'aurais beaucoup de pouvoir, donc me prendre pour un super héros.
Je serais sûrement le premier à le faire si j'étais dans le gouvernement héros.
Faut comprendre nos gouvernants, font un boulot exténuant, décompresse en gouvernant avec leurs projets consternants. Il faut pas leur en vouloir à tous ces gens au pouvoir qui se lèvent tôt et se couchent tard, ont bien besoin d'un défouloir. Le dégard pour nos ministres qui souvent ont une vie triste, les affaires qu'ils administrent leur donnent un air parfois sinistre. Sont un effort pour entendre qu'ils ont besoin de se détendre, c'est pas trop la pétante, donc ils s'attaquent à Notre-Dame-des-Landes. 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 Notre-Dame-des-Landes.
Bonjour, c'est donc l'émission Les Amis d'Orwell sur Radio Libertaire. Le sujet du jour, ce sera la mobilisation à Notre-Dame-des-Landes contre un projet d'aéroport. Bon, c'est un sujet qui est assez débattu dans les milieux militants. On va le résumer un petit peu au début avant de parler des aspects de la répression. Alors pour en parler aujourd'hui, on est avec Yann, avec Joël, Jean-Pierre, Cyril, Amanda est à la technique. Alors qui est-ce qui se lance dans un petit résumé? Pourquoi cette mobilisation? Qu'est-ce qui se passe?
On peut faire une petite présentation à plusieurs voix. N'hésitez pas à rectifier si je dis des bêtises. Donc, pour la mobilisation Notre-Dame-des-Landes, bon, je refais un peu le speech. Ça commence dans les années 70, donc avec un projet d'aéroport à Notre-Dame-des-Landes. Donc, 20 hectares de terrain qui doivent devenir des pistes d'avion. Dans les années 70 commence la mobilisation, des gens commencent à manifester contre ce projet, à se constituer en association, Et puis le projet tombe à l'eau tranquillement, disparaît, les gens s'en préoccupent plus. Et puis ce projet réapparaît là, il y a moins de 10 ans, 2002-2003. Et la mobilisation reprend soudainement avec la CIPA et différentes associations de lutte contre l'aéroport, donc qui elles sont les premières à se mobiliser sur la question. Avec une production très, 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 très riche de documents, de recherches, d'enquêtes sur les points de vue économiques, les points de vue écologiques, économiques, parce que, avant tout, il y a déjà un aéroport à Nantes, donc un deuxième aéroport, faut le justifier quand même. La justification, c'est Jean-Marc Ayrault, qui est maire de Nantes et maintenant Premier ministre, pour ceux qui ne sauraient pas. Envie pour sa ville d'un deuxième aéroport pour que le Grand Ouest ait un aéroport international. Ça veut dire un aéroport qui désaturerait soi-disant le premier aéroport de Nantes Atlantique. Sauf que le premier aéroport n'est pas du tout saturé, c'est ce que démontrera la CIPA par la suite. Donc tout l'argumentaire sur la nécessité de l'aéroport se heurte à une mobilisation de gens sur place qui disent « mais non, c'est faux, il n'y a pas besoin de cet aéroport ». Et puis ils finissent aussi par dégager des arguments. Donc ça, c'est des arguments économiques. Ils montrent que la fréquentation de l'aéroport est très faible de Nantes-Atlantique. Ils montrent qu'il y a des collusions politiques aussi assez importantes pour aboutir à cet aéroport. Et puis ils en arrivent aussi ils démontrent aussi l'argument écologique, c'est-à-dire que la zone est une zone humide, donc extrêmement riche d'un point de vue écologique, avec un certain nombre d'espèces protégées. Notamment, il y a une quarantaine de mares dans cette zone-là qui sont des mares protégées. Donc implanter cet aéroport-là, à cet endroit-là, c'est vraiment vouloir pousser un projet contre plein de facteurs, en fait. Et à partir de là, petit à petit, la mobilisation monte, de plus en plus de monde s'y intéresse, et puis on a vraiment un point d'orgue avec le camp Action Climat, qui s'installe donc en 2008, si je ne me trompe pas, et amène un certain nombre de gens à s'intéresser à une lutte qui restait assez méconnue jusqu'à là, en fait. Et à partir de là, on a vraiment une mobilisation qui monte, le camp Action Climat. Peu de temps après, on a...
Camp Action Climat qui est organisé sur place.
Sur place, ouais. ZAD, derrière la forêt de Roanne.
Qui amène donc, beaucoup de monde sur les lieux mêmes.
Donc on a plusieurs centaines de personnes qui vont se déplacer au camp Action Climat, faire des actions sur l'aéroport de Nantes. Et du coup, un certain nombre de ces gens-là vont rester sur place et réoccuper les maisons que AGO, donc le gestionnaire de Vinci de l'aéroport, du projet d'aéroport, Aéroport Grand Ouest, a racheté. Donc ils rachètent les maisons, les terrains, et petit à petit, les gens quittent les maisons, abandonnent ces terrains. Et ces terrains sont squattés après le camp Action Climat. Les premiers terrains, donc la première maison, le Rosier qui vient d'être détruit il y a à peine un mois. Cette première maison est occupée en 2007, 2008, ensuite. Et la mobilisation s'installe sur un autre plan. C'est-à-dire qu'on a d'un côté les associations qui se mobilisent et de l'autre côté, on a les zadistes qui apparaissent, c'est-à-dire des squatteurs qui réoccupent les terrains et vont déclencher aussi une opération comme Reclaim the Fields qui va ramener 2000 personnes qui vont remettre en friche une partie de la zone pour nourrir un très grand nombre de personnes. Et aujourd'hui, là, le sabot, c'est l'endroit où ils ont remis en friche les terres, il y avait de quoi nourrir une centaine de personnes, voire 150 personnes, à cet endroit-là. Et cet endroit-là a été détruit il y a le 16 octobre, notamment. Et ensuite, vient une deuxième phase, donc avec un camp anti-G8 qui s'installe à son tour à cet endroit-là, en même temps qu'il y a une grosse mobilisation, celle où Nicolas Hulot recevra un saut de fumier sur la tête. Il y a une grosse mobilisation des associations d'un côté et il y a un camp anti-G8 qui se monte d'un autre côté. Donc 100, 150 personnes qui viennent s'installer à cet endroit-là et qui, eux, vont vraiment ancrer encore plus la lutte en se réinstallant très nombreux à l'issue de ce camp. Donc, sur les 150 personnes, un grand nombre sont restés sur place, en fait. Et donc, on atteint 200 squatteurs cette année sur la ZAD. Ce qui crée vraiment une dynamique très importante avec un grand nombre de projets, des cabanes, beaucoup de lieux qui sont créés, des scieries, des forges, une boulangerie, il y a vraiment toute une vie qui émerge à cet endroit-là en fait.
En lien avec la vie préexistante, notamment avec les agriculteurs.
Premièrement, il y avait une espèce de... Il y avait, voire une inimitié même, parce que des gens qui sont les militants historiques à cet endroit-là, vont voir arriver des gens qui ne connaissent pas, qui s'approprient une lutte. Il y a des altercations assez importantes au départ. Et donc... Excusez-moi.
Et même quand le village anti-G8 s'est installé, il y avait entre les zadistes anciens et puis les nouveaux, il y avait aussi une méfiance qui s'installait entre... Toutes les vagues d'opposants ont eu du mal finalement à incorporer ceux qui arrivaient. Et ça finit par faire, au bout du compte, vraiment toute une zone de résistance assez grande et qui va se matérialiser quand il y aura les expulsions le 17 novembre. Et à ce moment-là, toutes ces méfiances réciproques vont disparaître et vont faire créer une grande solidarité entre les gens. Et ça se voit, quoi. C'est assez étonnant quand on va sur place de voir maintenant les paysans, la façon dont ils sont avec... en osmose avec les jeunes radicaux qui sont installés sur place.
Il y a moins de friction et il n'y a pas de césure entre les diverses formes de mobilisation sur place.
C'est pas non plus le paradis sur terre. Tout n'est pas rose, je veux dire. Mais il y a maintenant, auprès des plus anciens zadistes et des paysans, il y a maintenant une confiance qui s'est instaurée par rapport à la répression qui est les expulsions du 17 novembre, puisqu'à ce moment-là, toutes les réserves de la CIPA sur le côté radical des gens installés, il est un peu tombé, parce que quand le gouvernement propose la commission de dialogue, c'est quand même parce qu'il y a eu cette résistance auquel la police ne s'attendait pas, qui a étonné... qui a désarçonné un peu la préfecture et le gouvernement. Et donc les paysans qui étaient sur place et qui finalement sont venus au contact des forces de l'ordre avec les zadistes, tout le monde, difficile de se faire la tête après.
En fait, vraiment, l'opération, la défiance, elle a fondu vraiment avec la répression, effectivement. Parce qu'il y a eu une répression très violente et avec des gens des environs qui ont vu carrément leur village... leurs terres occupées, assaillies par une armada de gardes mobiles. Donc évidemment, ça soude un peu les gens devant la répression, en fait. Et les agriculteurs, mais notamment des gardes mobiles qui coupent des barrières et qui font échapper les bêtes des enclos, qui piétinent les gens... allègrement, sans aucune... sans vergogne. Évidemment, ça unit un peu tout le monde.
Moi, j'ai juste une question. En fait, je voulais savoir qu'est-ce qui s'est passé là récemment pour que toute la mobilisation se...
On va y venir. Juste avant, j'aurais voulu que vous avez utilisé, enfin Jean-Pierre surtout, tu as utilisé le terme de zadiste. Est-ce que tu peux expliciter un petit peu rapidement?
Je crois que j'en avais parlé. C'est-à-dire c'est la zone à défendre. Donc zad, ça veut dire zone à défendre. Hein.
Enfin, initialement, c'est la zone d'aménagement différé.
Voilà. C'est la récupération du terme. Donc les zadistes, oui, c'est les gens qui vivent sur la ZAD.
Sur la ZAD, voilà, oui. Mais j'aurais bien aimé répondre à Amanda. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous me reprendrez si je dis des âneries, mais à partir du moment où le gouvernement décide d'expulser concrètement les les constructions qui existent sur le site, non seulement ça soude les gens sur place, mais il y a beaucoup de gens qui, au cours des précédentes années, sont passés et pour qui c'est devenu autre chose que... Il y a la lutte contre l'aéroport, mais c'est devenu donc le squat du sabot. Ce sont des gens qui ont installé des maraîchages donc sur la zone. Il y a des cabanes dans les arbres. Il y a à la fois... C'est comme si ça touchait tous les gens qui sont passés, on en gardait un souvenir, une sorte de, une partie d'eux-mêmes, quoi.
Il y a une utopie concrète en fait. Je crois que c'est sans doute
ce qui échappe au gouvernement.
C'est ce qui fait tellement l'ampleur du mouvement aujourd'hui et ce soutien assez impressionnant qui s'est mis en place aussi bien sur le Notaf que là. C'est ces utopies en fait. Face à des grands projets inutiles et imposés, on a des utopies puissantes qui se mettent en place, c'est-à-dire des modes de vie alternatifs qui sont très concrets en fait. Parce que quand on va là-bas, on touche ça de très près, puisqu'on a des maisons qui se construisent totalement de briques et de brocs, de récupération.
C'est une zone d'autonomie temporaire en fait, c'est une concrétisation d'un vieux rêve en fait.
Imaginons une rue, je me rappelle que par rapport au village long qui était du anti-G8 qui était installé, juste à côté, il y avait un petit chemin. Et dans le chemin, on faisait 5 mètres, on voyait une cabane dans l'arbre. Tu faisais 10 mètres après, tu voyais une tente avec un grand camion de toffeur devant. 15 mètres plus loin, comme une rue, comme une vraie rue. Et 15 mètres plus loin, c'était le maraîchage, etc. Évidemment, le 17 novembre, c'est toute cette rue-là qui a été détruite par le 17-18 novembre, enfin toute la semaine de destruction. C'est tout cet aspect qui a été vraiment balayé et de façon assez violente.
Alors, la répression... l'intervention des policières de l'État, elle commence le 16 octobre.
Pas vraiment, parce que...
Oui, le 17 novembre, c'est la réoccupation.
En fait, concrètement, la répression commence...
Le 17 octobre.
La répression commence au printemps, en fait. Printemps de cette année, on a, on a les prémices de ça. On a des vigiles qui apparaissent, qui font les tours des maisons, etc. Donc on a déjà et puis même la manifestation en juin à Nantes était extrêmement animée. On a vu des barricades en feu en plein dans la ville de Nantes. Donc c'était avec quand même un affrontement pendant un moment. Donc c'était déjà à ce moment-là, la répression a commencé là. C'est à partir du moment où les expulsions sont devenues se sont concrétisées, c'est où les premiers procès sont tombés, que là on a vu la répression arriver. Et là, à la fin de l'été, les échéances fixées par la justice sont arrivées à terme. Le 16 octobre, 150 personnes ont été expulsées d'un coup. 10 lieux, 11 lieux ont été vidés dans une journée. Et je crois que c'est là qu'on a vraiment vu... ressenti la répression, parce que les images, il y en a eu beaucoup sur cette journée-là, et qui montraient des lieux détruits, en fait. Immédiatement, les gens jetés dehors, tirés dehors par une armada de gardes mobiles, et la pelleteuse qui arrive derrière qui détruit la maison. C'est quelque chose d'extrêmement violent. Ça veut dire, on nie carrément que vous avez habité là, que vous êtes des squatteurs, vous n'avez jamais habité, en fait.
Et c'est à ce moment-là que notre ministre de l'Intérieur, monsieur Manuel Valls, dit qu'il est en train d'éradiquer un kyste sur la...
Ça vient un peu plus tard, le kyste.
Ça vient un peu plus tard.
Ouais.
On va y venir, Jean-Pierre. On va faire une petite pause musicale et puis on va poursuivre sur la répression.
Chanson de cabane pour la ZAD. Je refuse le flicage. Appelez-moi Jamie. Contre la destruction du bocage. Appelez-moi Jamie. Parce que je ne crois plus à la croissance. Appelez-moi Jamie. pour vous appeler à la résistance. Appelez-moi Jamy. Parce que je refuse la violence policière. Appelez-moi Jamy. Parce que j'espère un monde plus solidaire. Appelez-moi Jamy. Contre ces gouvernants qui nous méprisent. Appelez-moi Jamy. Qui nous traitent comme des marchandises. Appelez-moi Jamy. Et pour ceux qui veulent sur la salle les campagnes et les villes, on peut mettre tête à toutes les brigades. Appelez-moi Jamy. Appelez-moi Jamy. Contre le terrorisme en bleu. Appelez-moi Jamy. Contre les politiciens véreux. Appelez-moi Jamy. Car l'avenir dépend de notre action présente. Appelez-moi Jamy. Contre leur politique déshumanisante. Appelez-moi Jamy. Parce qu'un autre monde est possible. Appelez-moi Jamy. Parce que l'argent n'est pas invincible. Appelez-moi Jamy. Parce que l'on veut encore y croire. Appelez-moi Jamy. Car c'est nous qui portons l'espoir. Appelez-moi Jamy. Et pour tous ceux vivant sur la ZAD, qu'ils soient garçons ou filles, on te dit bon sur les barricades. Appelez-moi Jamy. Appelez-moi Jamy. Appelez-moi Jamy. Appelez-moi Jamy.
Ben, on est de retour dans l'émission Les Amis d'Orwell. On est en train de parler de ce qui se passe à Notre-Dame-des-Landes. On a fait un petit historique rapide. On a donc commencé à parler du début de la répression au cours de l'année 2012. Mais je disais, le 16 octobre, ça s'est quand même bien intensifié. Puisqu'il y a eu les destructions des premières cabanes, mais il y a eu également une quasi-occupation militaire à partir de ce moment-là, ce qui s'appelle officiellement l'opération César.
Oui, c'est César, c'était César 44, je crois, un truc comme ça. On a mis un peu de temps à chiffrer exactement le nombre de compagnies impliquées. Mais effectivement, par rotation de 500, ils étaient au total 2200 gendarmes mobiles mobilisés sur cette affaire-là. Donc pour un coût, je crois, de 500 000 euros de l'opération. C'était assez phénoménal, en fait. Et toute la zone a été envahie. On voit des photos avec des gardes mobiles à perte de vue. Et tout ça, ça a été orchestré en quelques heures. Je crois que ça a été d'une brutalité inattendue. D'abord, les lieux durs, c'est-à-dire les planchettes, la boissière, les planchettes, Bel Air, tous les lieux en dur ont déjà été attaqués, certains rasés comme les planchettes. Et puis les cabanes ensuite, les pelleteuses, on a vu des trucs assez impressionnants, les pelleteuses qui arrachent les plateformes dans les arbres et avec les gens qui sont encore au-dessus. C'est-à-dire les cabanes sont arrachées alors que les gens sont encore dans les arbres. Avec des équipes aussi qui sont montées les chercher, qui escaladent les arbres, qui les brutalisent carrément en haut. J'ai lu un témoignage assez intéressant d'une personne qui était abasourdie par la violence des grimpeurs qui sont allés les chercher, qui les ont carrément malmenés, qui ont écrasé la gorge, et qu'ils ont fait des clés d'étranglement, etc., pour les faire, et qui les ont saucissonnés, mis dans les pelleteuses, et descendus dans la pelle de la pelleteuse, avec un genou sur la tête. Donc ça, c'est des trucs extrêmement violents. Et à partir de là, la répression s'est intensifiée jusqu'au 23. Enfin, s'est intensifiée et a culminé au 23 novembre. Donc là, je vais peut-être laisser la parole à Yann parce que il en parlera mieux que moi, ayant été sur place.
Oui, du coup, depuis cette date-là et après la manifestation du 17 novembre, il y a quand même, il y avait déjà des barricades, hein, sur la zone.
17 octobre.
Alors attends, la manif... Oui,
dans la manif du 17 novembre, c'est la manif qui avait été appelée en soutien pour la reconstruction, voilà, de ces cabanes.
C'est ça, mais justement, c'est autour de cette date-là, depuis octobre en fait, que les barricades se sont mises en place un petit peu sur tous les chemins qui entourent la zone, histoire de tenir la zone et de pouvoir tenir une attaque aussi, puisqu'on a vu qu'il y avait une imminence... des interventions de police, que les gendarmes étaient là et avaient pour volonté d'occuper, quoi. Du coup, les barricades se sont mises en place et de plus en plus, la nuit, des personnes se relaient toute la nuit, des équipes avec des talkie-walkie pour surveiller la zone et avertir les gens qui dorment et, en cas d'arrivée de police, ce qui se fait en général dans la matinée aux aurores, quoi. Du coup, par exemple, là, la dernière expulsion, celle du 23 novembre.
Hein.
23 novembre, donc c'était les Rosiers, donc qui était une maison en dur aussi, qui devait être expulsée à cette date-là. Et donc on était prévenu la veille.
Donc c'était le premier squat sur la zone.
Voilà, c'est l'un des plus anciens, c'est un peu l'histoire de la ZAD aussi. Et du coup, on était prévenus et beaucoup de gens étaient mobilisés pour intervenir à ce moment-là et pour empêcher les policiers d'arriver. Ce qui n'a pas tout à fait marché. C'est-à-dire qu'à 6h du matin, tout le monde a été surpris et la maison a été prise. Et comme disait Joël tout à l'heure, immédiatement démolie dans la matinée, quoi. C'est-à-dire 2 heures après, elle était démolie, il y avait les pelleteuses, etc. Mais du coup, à ce moment-là, il y a eu aussi une réaction de la part des gens qui ont vécu ça comme un affront, comme toutes les autres opérations. Et du coup, il y a eu des contre-attaques. Et c'est à ce moment-là que les barricades ont servi un petit peu de base arrière pour essayer de chasser les gendarmes de la zone, puisque l'idée, c'était qu'ils occupaient une zone et qu'on ne voulait pas de là, qu'ils n'avaient rien à faire là et qu'il fallait les en chasser. Du coup, il y a un certain nombre de groupes qui ont pris pour mission, on va dire, d'éloigner les gendarmes. Et du coup, ça aboutit sur le week-end du 23-24, qui a été extrêmement violent, ce week-end-là, du 23-24 novembre. Dans un premier temps, autour de la zone des Rosiers, de la maison expulsée. Et dans un second temps, autour de la Châtaigneraie. Donc ça, c'est la zone où des maisons en bois ont été construites au cours de la manifestation du 17 novembre, au moment où il y avait cette grosse mobilisation de 40 000 personnes. Et dans un troisième temps, donc le jour suivant, le samedi, dans la forêt de Roanne, parce que les cabanes qui sont dans les arbres à cet endroit-là ont été détruites, c'est peut-être une troisième fois. Enfin, ça fait plusieurs fois et elles sont reconstruites à chaque fois. Et donc c'est à ce moment-là, dans ces trois temps forts, en fait, qu'il y a eu des affrontements sur toute la zone. Voilà. Et donc, du coup, j'en profite pour aussi parler un petit peu, évoquer les armements qui ont été utilisés, parce qu'il y a beaucoup aussi de... Comme il y a eu beaucoup de blessés, il y a aussi beaucoup de questions qui se posent. Beaucoup de gens qui se sont interrogés sur ce qui était vraiment utilisé sur place, parce que il y a des personnes qui se sont retrouvées avec des copeaux de métal dans les jambes, des personnes qui ont reçu des impacts de balles de caoutchouc. Et il y a eu un usage... extrêmement intense de bombes lacrymogènes, de grenades lacrymogènes, de tout type. Du coup, je vais faire un espèce de tableau explicatif rapide de ce qui est vraiment utilisé. Il n'y a pas beaucoup d'armements différents, mais dire qu'à partir de la première sommation, en fait, quand les gendarmes interviennent, ils commencent toujours par jeter du gaz. Donc ça se présente sous la forme d'une grenade qui est souvent jetée, alors qui peut être jetée à la main, mais qui est souvent jetée avec une grosse arme, une espèce de gros tube qui s'appelle un cougar. Et donc j'en ai ramené là, bon les auditeurs ne le verront pas, mais voilà, ça prend cette forme-là, c'est une espèce d'obus avec différents lanceurs pour 50 mètres, 100 mètres, 200 mètres. Et dedans, il y a des petits palets. Donc quand on l'ouvre, on voit des petits palets comme ça, il y en a 6. et qui propulse en fait un nuage de lacrymogène sur la zone où on atterrit. Donc ça arrive du ciel, en général on les voit arriver, six petits palets à qui lâchent un filet de fumée et qui tombent sur le sol, et toute la zone est envahie. C'est, en général ça peut jusqu'à 800 mètres cubes, c'est-à-dire que ça envahit tout un champ de bombes lacrymogènes. Donc il y a deux types de lacrymogènes, il y a la CM6 et la PLMP7C, donc ça ne dira pas grand-chose, mais en fait il y a deux entreprises qui les produisent. La première c'est Lacroix Alcetex, et la deuxième c'est Nobel Sport. Donc elles se ressemblent beaucoup, il y en a une qui a un cercle orange, l'autre qui a un cercle rouge, donc voilà, c'est deux types comme ça, mais elles fonctionnent exactement de la même façon. Donc voilà, lacrymogène, donc ça, évidemment, ça fait pleurer. C'est, les composants de la lacrymogène sont les mêmes que l'oignon. Donc voilà, donc y a beaucoup de gens qui pleurent. Il faut utiliser du coup toutes sortes de remèdes pour pouvoir s'en prémunir, donc Maalox ou du sérum physiologique. Et en général, ça agit pendant 30 secondes à une minute, quoi. Où on peut être aveuglé, on peut aussi avoir des maux de tête. Par exemple, celle-là, la rouge, la CM6, provoque des maux de tête assez forts par moment.
Et l'utilisation de masques ou de masques à gaz, est-ce que ça a une efficacité
Oui, il y a un certain nombre de masques. Alors, il faut bien connaître les masques. Il y a des masques, ils ont des codes adaptés à un certain nombre de gaz. Donc A, B, E, C, c'est les masques qui sont utilisés. Donc de plus en plus, les gens aussi ont pris le réflexe de venir avec des masques à gaz. C'est-à-dire que les simples masques de peintre ne suffisent plus. Pour vraiment ne pas souffrir des gaz, il faut prendre des masques avec des recharges qu'il faut visser sur un masque intégral qui couvre le nez. Et donc il y a beaucoup de gens qui viennent maintenant avec ça et des casques aussi. Pourquoi des casques? J'en viens du coup à la deuxième arme. Qui laisse beaucoup de doutes, c'est-à-dire qu'il y a deux types d'armes qui détonnent, qui font du bruit en fait. Donc il y en a une qui fait seulement un effet sonore, qui est aussi une lacrymogène, qui fait un effet sonore, et vraiment un gros bruit qui a un effet psychologique, et une seconde qui pour le coup n'est pas une grenade lacrymogène, mais une grenade de ce qu'on appelle de désencerclement, qui projette alentour des projectiles, 18 projectiles de caoutchouc. Et il semblerait que dans cette grenade-là, il y a un dispositif métallique, sûrement le dispositif de propulsion des bombes, des morceaux de caoutchouc, qui fait que quand elles explosent au milieu d'une foule, très très régulièrement, des personnes qui se trouvent alentour se retrouvent avec des morceaux de métal dans le corps, en fait. Et ça arrive très très souvent, on est en train d'essayer de récupérer des photographies, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont été blessés comme ça. Pour tout dire, par exemple, la journée du samedi dans la forêt de Roanne, où l'affrontement a duré plusieurs heures.
Samedi 24 novembre.
Dans la forêt de Roanne, où des centaines de personnes en plus se sont ajoutées au cours de la journée, c'est-à-dire que quand l'affrontement a commencé, il y a une solidarité effective qui s'est mise en place, et des gens ont afflué de tous les alentours, donc des centaines de personnes se sont retrouvées dans la forêt et du coup se sont retrouvées dans les lacrymogènes et dans les affrontements, et à ce moment-là il y avait presque un blessé toutes les 20 minutes, c'est-à-dire qu'ils sortaient de la forêt avec des médecins qui étaient obligés d'aller les chercher sur des civières, et il y a eu des blessés assez graves. Il y a un médecin notamment qui a fait un état des lieux voilà, mais du coup je vais parler de l'état des lieux de... Oups là. Des problèmes qu'il y a pu avoir. Par exemple, ce 24 novembre, les médecins ont répertorié 11 blessures par flashball. Donc ça, c'est le balle de caoutchouc, lancé directement avec une sorte de pistolet flashball avec deux tubes qui a été produit par Vernet Caron, du coup, qui est le fabricant. Soit une nouvelle arme qui existe depuis 2009, qui est répandue parmi les forces de police, qui est le lanceur de balles de défense, qui est produit du coup par un fabricant suisse, et qui projette des balles de caoutchouc beaucoup plus conséquentes, et du coup beaucoup plus douloureuses. Je peux en attester, parce que j'en ai reçu une dans la cuisse à 15 mètres. Ça laisse un hématome de presque 20 cm de large qui ne s'en va qu'après deux semaines, on va dire. Donc voilà, et donc il y a eu ce jour-là, le samedi, rien que le samedi 24 novembre, et notamment par ce flashball-là, ce lanceur de balles de défense suisse, 11 blessures par flashball. Donc au thorax, à la joue, à la lèvre, au genou, dans les doigts, la cuisse, les côtes, les poignets. Donc vraiment, ils visent, ce qu'on a constaté aussi sur place, c'est que les policiers, les gendarmes visaient un petit peu n'importe comment. C'est-à-dire qu'ils ont des règles, normalement pour l'utilisation de ces armes-là. On a constaté, on a aussi des photos qui en attestent, qu'ils tiraient systématiquement à tir tendu, c'est-à-dire même à hauteur de tête, alors qu'ils sont censés tirer à 30 degrés d'inclinaison vers le ciel, et c'est censé retomber dans la foule, pour ce qui est des grenades en tout cas. Le flashball, ça peut, c'est utilisé en tir tendu, mais à une distance raisonnable, c'est-à-dire raisonnable, si on peut parler de raisonnable, c'est-à-dire que c'est au-delà de 7 mètres. Quoi. En dessous de 7 mètres, c'est létal. Ça peut...
Et pas en direction de la tête.
Et évidemment pas en direction de la tête, c'est en direction du bas du corps.
Il y a plusieurs cas de personnes qui ont été éborgnées par des tirs de flashball dans le passé.
Depuis que le flashball est utilisé, alors il y a différents types de flashball, mais la plus ancienne utilisation du flashball remonte à 1995. Il y a eu 7 ou 8 personnes qui ont perdu un œil, si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça, 7 ou 8 personnes qui ont perdu l'usage d'un œil, c'est-à-dire qui ont été éborgnées par le flashball. Là, à la ZAD, il n'y en a pas encore eu, et j'espère qu'il n'y en aura pas, mais il y a des blessures assez conséquentes quand même qui sont constatées. Parce qu'il y a eu des tirs à moins de 15 mètres, clairement, parce que les affrontements sont souvent très, très proches. Après, au-delà des blessures de flashball, il y a eu un certain nombre de traumatismes, il y a eu des plaies tympaniques à cause du son, il y a eu des chocs aussi, il y a eu des plaies de crâne qui ont été suturées à cause de grenades, même de grenades lacrymogènes qui ont été reçues à tir tendu dans la tête. Et il y a eu 6 blessures par explosion de bombe assourdissante. Ce qu'on appelle bombe assourdissante, c'est ce que j'ai appelé tout à l'heure. Alors, il y a 2 types, on ne sait pas exactement lesquels. Il y a les bombes, les grenades sonores, lacrymogènes sonores, et les grenades de désencerclement. Et on ne sait pas trop lesquelles produisent quoi, mais il est fortement probable que ce soit les désencerclements qui produisent les impacts métalliques. Donc il y a eu 6 blessures de ce cas-là, à la cuisse, à l'avant-bras, à la malléole, à la jambe. Et il y a eu aussi une personne qui a reçu un impact de ce type-là et qui a été atteint à l'artère fémorale. Donc si la blessure est conséquente, la personne peut se retrouver invalide aussi, parce que ça peut couper des artères, ça peut couper des nerfs, et ça peut s'avérer être très dangereux.
C'est surtout que... Dans cette journée-là, on a vu dans le rapport du médecin que les gendarmes empêchaient en plus les gens d'être évacués vers l'hôpital.
Oui, ce que déplore le médecin qui a écrit au préfet. Il a écrit une lettre ouverte au préfet dans laquelle il déplore justement le fait que les gendarmes n'ont pas laissé passer l'ambulance.
C'était un truc qu'on avait déjà vu il y a quelques mois, en juin, au moment de la ligne THT. Il y avait une cinquantaine de blessés en 30 minutes. Et dont une personne qui s'est pris un éclat dans l'œil, un de ses éclats, et qui, elle, a perdu son œil hein, depuis. Et cette personne-là avait été empêchée, dans un premier temps, de passer les barrages d'être évacuée vers l'hôpital, sans compter que les policiers étaient venus les chercher à l'hôpital, et que c'est un médecin qui a empêché qu'ils soient livrés, qu'ils soient arrêtés par la police à l'hôpital.
Et ce que constate le médecin aussi, et ce qu'on a constaté justement après ce que Joël dit, c'est-à-dire la manifestation au Schifrin, c'est que ces copeaux de métal parfois sont enfoncés relativement profondément dans le corps, ce qui fait que leur ablation, le fait de les retirer, peut créer des séquelles. Du coup, il y a un certain nombre de ces bouts de métal qui restent dans le corps parce que les médecins ne les enlèvent pas. Du coup, avec les suites que ça peut engendrer, et au mieux, le corps rejette lui-même le corps étranger, mais ce n'est pas forcément le cas. Quoi. Du coup, voilà, ça c'est pour ce qui est l'utilisation de ces armes-là. Elle est normalement réglementée, c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de décrets, notamment le décret d'instauration de ces armes-là, qui est un décret de 2011. C'est ce décret qui avait fait beaucoup de bruit parce qu'il permettait l'usage du fusil à répétition en cas d'émeute. Et donc c'est un décret de 2011, du 30 juin 2011, un décret Sarkozy, hein, et dans lequel sont décrites toutes les armes susceptibles d'être utilisées et le cadre dans lequel elles doivent être utilisées, avec les règles dans lesquelles elles doivent être utilisées. Voilà.
Et là, tout à l'heure, on a dit qu'il y avait environ 2200 policiers mobilisés ou mobilisables par divers paquets. On a une idée de la quantité de munitions qui ont été utilisées, parce que là, ça fait deux mois maintenant que les expulsions violentes ont commencé.
Moi, j'ai vu un tract intéressant de syndicat de police, SGP, je crois, qui dit... qui c'est très intéressant à divers points de vue, parce que ce tract dit que les compagnies ont été maintenues dans l'ignorance des horaires, des jours dans lesquels de permission, etc., que donc les gendarmes ont été maltraités par le pouvoir lui-même, puisqu'ils ont été maintenus dans la zone sans qu'on leur garantisse le moment où ils rentreraient, le moment où ils mangeraient, le moment où ils se reposeraient, donc eux-mêmes se disent malmenés. Et dans ce tract-là, ils disent qu'ils ont tiré 218 grenades sur le sabot, notamment. Donc 218 grenades, c'est en un après-midi. Donc ça donne une idée.
Ce qui est intéressant aussi, c'est de voir quand on se déplace sur la ZAD, très facilement, dans la plupart des champs où il y a eu ne serait-ce qu'une heure d'affrontement, on va trouver énormément de résidus de grenades, comme ceux qu'on a ramenés. On va les trouver à la pelle, c'est-à-dire que... ils utilisent à tout va des grenades lacrymogènes au minimum dès qu'il y a un affrontement, ne serait-ce que de 15 minutes. Quoi.
Bah, moi, j'ai été à un endroit sur un mètre carré, j'en ai trouvé 7 ou 8 sur un mètre carré, en fait, des culots de grenades lacrymogènes, ce qui laisse imaginer combien ils en tirent, en fait.
Oui, il y a des vidéos où on voit des gens qui ramassent des sacs poubelles pleins de... Oui.
Il y en a dans tout. À chaque barricade, on a le droit à son petit sac poubelle de lacrymo.
Je crois qu'il y en a qui ont été pris pour être déversés devant la mairie de Nantes au cours d'une manifestation aussi. Mais vraiment des sacs d'un mètre de haut remplis de...
Et il y en a d'autres qui servent à faire de l'art ou des objets utiles dans les cabanes de la ZAD.
C'est la magie de la ZAD.
On va passer à un autre aspect de la répression. C'est les aspects judiciaires, parce que ce soit sur la ZAD ou à Nantes, ou même on va le voir peut-être aussi à Paris, il y a d'autres formes de répression à travers des arrestations et des procès qui se mettent en place. Jean-Pierre, tu veux intervenir là-dessus?
Peut-être qu'on pourrait parler de l'arrestation qui a eu lieu à Nantes, enfin sur la ZAD, sur une barricade et dans des conditions qui sont quand même assez significatives.
C'était le 26 novembre, le lundi 26 novembre, donc juste après ce week-end un peu tendu. Il y a eu une intervention très particulière. On pense que c'est un service spécial de la gendarmerie qui s'appelle le PSIG, dont on essaie encore de comprendre exactement les missions. Normalement, c'est une brigade qui est censée protéger les centrales nucléaires, mais apparemment, ils ont un cadre de mission plus large. En tout cas, ce qui s'est passé dans les faits, c'est que des personnes étaient présentes comme tous les jours sur les barricades, parce que ces barricades sont tenues, elles sont surveillées, dans un contexte assez tendu, avec des gardes mobiles déployés à proximité. Et alors un groupe de personnes habillées en civil, donc habillées avec des habits sales, vraiment identiques à des personnes de la ZAD, sont arrivées sur la barricade, je crois une dizaine ou une quinzaine de personnes sont arrivées sur la barricade, après être passé à la Vacherie, qui est un autre lieu occupé de la ZAD, et en appelant tout le monde à rejoindre les barricades, ils sont arrivés sur cette barricade en question, et ils ont un peu poussé au crime, on va dire, ils ont poussé les gens présents à intervenir, à attaquer les gendarmes, et dès que c'est parti, dès que le premier projectile est parti, cette dizaine ou cette quinzaine de gendarmes s'est révélée, en fait, de personnes en civil, s'est révélée, a mis les brassards de gendarmes et a commencé à intervenir pour arrêter les personnes qui étaient présentes à côté d'eux. Et alors il y a eu une altercation, parce que du coup les personnes se sont battues, on va dire, avec ces hommes en civil qui voulaient les arrêter. Et dans la mêlée, en fait, les personnes qui étaient présentes ont définitivement été arrêtées. Et actuellement, si je ne m'abuse, c'est 5 personnes. Combien de personnes ont été arrêtées sur le moment?
Oui. Il y a 5 personnes qui ont été arrêtées, donc je relisais un peu l'extrait d'Immédia Nantes, qui est quand même assez édifiant, où ils disent que une fois que les flics leur étaient tombés dessus, ils leur ont démasqué le visage, ils ont eu les mains attachées directement avec des cordelettes en nylon, on leur a mis des bandeaux sur les yeux, et donc ils ont été frappés au visage notamment, assez violemment, et menottés au sol. Et à un moment donné, ils disent aussi que les flics en ont profité de l'arrestation pour remplir le sac avec des pavés et un masque de ski. Donc ça veut dire qu'en plus, ils ont rajouté des éléments à charge dans le sac d'une des personnes qu'ils ont arrêtées. Ils ont été traînés à travers les lignes de gendarmes et embarqués. Et donc là, ça en suivit donc une répression.
Et au final, il y a une personne qui est actuellement en prison pour 5 mois, qui a pris 5 mois de prison ferme.
En comparution immédiate.
En comparution immédiate.
Une des personnes arrêtées dans ce cadre-là.
Voilà. Et bon, ce garçon, on peut le dire, hein, il s'appelle Cyril, il a écrit une lettre ouverte de prison où il explique un petit peu comment ça se passe pour lui. Il a maintenant 5 mois. Et alors, il y a des choses qui ont été aussi distribuées dans le cadre des arrestations, d'autres arrestations au cours de ces moments-là. C'est des interdictions de zone, c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de personnes qui ont une interdiction de présence sur un certain nombre de communes autour de la ZAD ou dans la ZAD pour une durée de 2 ans. C'est-à-dire qu'ils n'ont plus le droit de venir dans la région.
Le plus absurde, c'est la personne qui habite en Loire-Atlantique et qui est interdite d'habiter ailleurs que dans son village. Donc il ne peut pas vivre ailleurs que dans l'endroit natal où il est né, en fait. C'est complètement absurde comme truc.
Ah oui, du coup, pour préciser, pour ne pas dire de bêtises, donc à ce moment-là, donc, sur le fait qu'on a évoqué, il y a 5 personnes qui ont été interpellées. Donc une personne a été relâchée sans poursuite, une a refusé de donner son identité et passera en comparution immédiate sous X. Une a pris 6 mois avec sursis plus 500 euros avec sursis pour refus du prélèvement ADN, plus une interdiction de séjour en Loire-Atlantique de 2 ans. Une autre a pris 2 mois avec sursis pour avoir filmé les policiers. Et en ayant refusé de montrer ses bandes. Et la personne qui est maintenant 5 mois en prison a été désignée comme leader. Voilà. Pour avoir prononcé différentes menaces pendant l'après-midi. Voilà.
Ça vient s'ajouter à un grand nombre de personnes qui ont été arrêtées à divers moments, qui ont été mis en garde à vue, alors difficile de chiffrer, il faudrait reprendre les articles, retracer un par un le fil d'infos de zadnadir.org, qui est quand même assez intéressant parce qu'il montre vraiment une situation au quotidien, heure par heure, parfois 10 minutes par 10 minutes, ce qui est assez, assez chouette, faut quand même reconnaître le mérite de l'automédia de la ZAD. Et il faudrait retracer tout ça pour voir combien de personnes ont été arrêtées concrètement. Mais là, on a vraiment eu un tournant, puisque avant, les gens étaient relâchés. On n'avait pas de convocation, etc. Là, on a un tournant, puisque des gens sont arrêtés, comparution immédiate, le verdict est très lourd. On voit que la répression devient judiciaire aussi.
Il y a un effet dissuasif, probablement, quoi, pour...
Et elle n'est pas propre que... Peut-être qu'on pourrait aussi parler de la mobilisation sur Paris, et où là aussi, la répression, finalement, agit et
elle
n'est pas un vain mot. Quoi.
Elle n'est pas que sur la ZAD.
Coup, tu peux nous en parler.
Oui, il faut savoir que donc, suite aux premières expulsions du 16 octobre, il y a eu une mobilisation sur Paris qui est née avec... la naissance d'un collectif Île-de-France et avec des assemblées générales tous les mardis. Et le premier mardi où ce collectif s'est réuni, on avait décidé d'aller le lendemain accueillir Jean-Marc Ayrault à France Inter pour la matinale. Et on avait les gens qui étaient présents avaient à peine franchi les portillons, c'est-à-dire qu'ils n'avaient même pas mis le pied dans la rue, quoi, que les forces de l'ordre chopaient chacun un par un pour contrôle d'identité. Et ce qui est une autre partie a réussi à se faire passer pour. N'est pas rentré dans la souricière et a été à France Culture. Mais ce qui est remarquable par rapport à ce côté arbitraire, c'est que les gens qui ont été tout de suite arrêtés à la sortie du métro ont été encagés, comme l'a employé le terme d'un policier d'une manière fort poétique, encagés dans un commissariat. Et pour ceux qui ont l'habitude des contrôles d'identité, souvent c'est voilà, tu restes dans un coin, on attend que tu passes devant le policier, et puis c'est très 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 rapide. Mais là, sur les 8 personnes qui étaient interpellées, ils voulaient savoir à l'appel de qui les gens étaient là, pourquoi ils étaient là, est-ce qu'ils connaissaient les autres personnes qui étaient en bas dans la cellule. Et pour ceux qui disaient « mais j'ai rien fait, je sors simplement du métro », c'était tu signes la main courante ou sinon on te garde à vue. Et on le verra après sur la répression à Paris. Ça a pris tout de suite le fait que ce soit Jean-Marc Ayrault qui soit Premier ministre et finalement qui travaille sur ce projet de Notre-Dame-des-Landes, a une implication sur la répression qui a été importante en tous les cas dans les premiers le premier mois de révolte là-dessus. Mais après, ça c'est les premières interpellations sur Paris, mais ça n'a pas arrêté ensuite.
Après, il faut dire que dans le même temps, les antennes PS changeaient de décoration au fur et à mesure. Donc, il y avait un certain nombre d'antennes PS dans cette même période qui avait été repeinte. Et du coup, il y avait eu toute une déclaration médiatique qui recherchait les coupables, que c'était hautement condamnable. Et donc, il y a eu un peu une chasse aux sorcières qui s'est engagée. D'ailleurs, des copains en ont fait les frais ensuite, puisque quelques temps plus tard, deux personnes ont été arrêtées et gardées quand même 62 heures en détention. Donc, ce qui est quand même assez lourd pour une présomption de culpabilité sur un tag. Et c'est là vraiment qu'on a pris conscience que il y avait une espèce de psychose aussi qui s'est retrouvée sur les manifestations qu'on a eu l'occasion de faire, notamment celle du 10 novembre, si je ne me trompe pas, ou celle du 10 novembre, celle du 1er décembre, celle... oui, c'est déjà pas mal, et qui était hautement surveillée, c'est-à-dire qu'on avait à chaque fois le droit à nos escadrons de garde de CRS tout autour.
Oui, c'était pas la... Je crois que tu t'es... Tu t'es un peu trompé sur la date, je crois.
C'était le 8 décembre.
Le 8 décembre.
Où effectivement, il y avait les forces de l'ordre qui encadraient sur les trottoirs la manifestation.
Oui, mais il y avait aussi le soir du 23, oui, en réponse à la l'Assemblée nationale. Voilà. Donc oui, c'est ça.
Et qui ont montré la force du mouvement, parce que au même temps, et on y viendra peut-être sur les perspectives du mouvement, mais ce qui fait sa force, c'est que non seulement il y a une riposte sur la ZAD et à Nantes, mais il y a plein de collectifs qui se sont montés en France, et dès qu'il se passe quelque chose sur la ZAD, 150. Non seulement il y a des gens qui ont le talkie-walkie pour prévenir quand les flics arrivent, mais ça se passe aussi dans les autres villes. C'est-à-dire que le 23 novembre, dès qu'il y a eu les expulsions sur la ZAD, nous, à Paris, on a organisé le soir même un rassemblement sur l'Assemblée nationale. Quoi. Et s'il devait y avoir de nouvelles expulsions, on a prévu le lendemain, le soir même, de se retrouver à 18h30 à Belleville. C'est-à-dire que dès qu'il se passe quelque chose, on doit être capable d'être réactif un peu partout. Mais peut-être on peut revenir sur les deux copains qui ont été gardés à vue, puisqu'il y a un procès qui est prévu.
Oui, il y a le procès aura lieu le 16 janvier. Ce qui est intéressant un peu dans cette histoire-là, c'est que c'est parti de rien finalement, c'est parti de faits de dégradation sur une permanence PS qui ont été faits au marqueur, donc rien de bien grave a priori. Mais on sent bien qu'ils ont essayé non seulement de faire des recoupements avec d'autres faits de dégradation, notamment une dizaine d'autres faits répertoriés sur 10 autres permanences PS, donc avec tag, collage et bris de vitre sur certaines. Donc ils ont essayé de faire des recoupements et tout l'objet de la détention, était de trouver des preuves, en fait, d'aller chercher des preuves, puisque les personnes inculpées ont été perquisitionnées à leur domicile. Donc l'idée, c'était vraiment d'aller chercher quelque chose qu'ils n'avaient pas en leur possession. Et en plus, il y avait cette dimension, effectivement, affaire d'État, un petit peu, du fait qu'un des messages sur la permanence PS était un jeu de mots avec le nom du Premier ministre. C'était aéroport, port écrit comme un cochon, comme l'animal. Ça a été utilisé comme étant un outrage envers une personne dépositaire de l'autorité publique. Et du coup, ça a été le premier chef d'accusation, entre guillemets, au moment des auditions, qui n'a pas tenu longtemps parce que c'était tout simplement ridicule. Donc après, ils ont essayé de faire les recoupements et d'inculper sur les 10 autres faits de dégradation, ce qui n'a pas tenu non plus parce qu'ils n'avaient pas de preuves tangibles pour avancer ces choses-là. Ils ont gardé les portables sous scellé pour faire des géolocalisations au moment des autres faits sur les autres permanences PS, pour prouver est-ce que les portables étaient présents sur les lieux des faits. Et ils font des expertises chimiques à partir des peintures qui ont été prises au cours des perquisitions pour faire des rapprochements. Est-ce que c'est les mêmes peintures qui ont servi à faire les dégradations, etc. Donc ils cherchaient ça, mais c'est pas resté dans les chefs d'inculpation. Ce qui reste à la fin, et ce pourquoi les personnes vont être jugées le 16 janvier, c'est refus de prélèvement biologique et dégradation légère. C'est tout. Donc ils n'ont pas grand-chose, mais ils ont fait une grosse affaire avec pas grand-chose. 60 heures pour ça, c'est quand même énorme. Avec un déferlement devant le parquet aussi.
Donc on appelle tout le monde à venir le 16 janvier soutenir les deux personnes. Et avant de passer aux perspectives, signalons donc le 23 novembre, il y a eu 77 interpellations. Que samedi dernier, 15, il y avait l'inauguration d'un tramway à Paris par François Hollande. Et là, il y a eu 22 interpellations.
Chantier sur lequel Vinci a participé par sa filière Eurovia.
Une bonne transition sur les perspectives, parce qu'il y a deux, pour les opposants, il y a deux adversaires désignés. C'est le Parti Socialiste avec Jean-Marc Ayrault et puis Vinci, qui est la société organisatrice des travaux. Alors par rapport à tout ce qu'on vient de dire, c'est quand même pas non plus... Il y a ce côté répressif. Mais il y a aussi une formidable mobilisation, ambiance, qui fait que les gens se retrouvent sur ce combat. Et pour citer, pour faire une transition, le week-end dernier, il y avait une coordination de tous les opposants, de tous les collectifs qui sont nés en France
pour soutenir la lutte
à Notre-Dame-des-Landes, avec un petit pique-nique organisé le samedi pour... dont le but, en fait, d'aller d'agrandir encore le champ des cabanes construites sur la Châtaigneraie. Et il y avait un jeu du chat et la souris avec les forces de l'ordre qui fait que quand les forces de l'ordre sont là sur un carrefour, les gens passent les champs, à travers les champs. Les policiers sont un peu gênés pour le faire. Et il y a ce jeu du chat et de la souris qui est quand même, je trouve, assez intéressant. Et ce désir des opposants de répondre, de créer aussi leur propre calendrier qui est un phénomène assez remarquable et qui nous sort des réunions un peu engoncées traditionnelles.
C'est vrai qu'on quitte un peu le calendrier de... Avant, on réagissait à une actualité, on fixait des dates. Maintenant, des dates émergent qui, elles, prennent de l'avance, en fait. Et notamment, donc, à l'issue de cette réunion des collectifs, en est ressorti quelques dates et la volonté de créer un champ plus large à la lutte, c'est-à-dire de s'unir aussi aux autres luttes, parce que ça fait un moment que ça traîne un peu dans toutes les pensées, c'est de réunir les luttes des grands projets inutiles et imposés entre elles, en fait. C'est faire converger tout ça. Et je pense que c'est un peu le cauchemar du pouvoir, donc raison de plus pour le faire.
Il y a eu donc dans cette rencontre à Notre-Dame-des-Landes un certain nombre de propositions qui ont été émises. Le 18-19 janvier, il est prévu de faire une journée d'action décentralisée sur Vinci, justement, parce que au même moment, un peu partout, dans toutes les villes, il y a donc une centaine de collectifs qui ont été créés, que dans toutes les villes, il y a des actions sur Vinci. Parce que souvent, les gens comprennent qu'on s'en prenne au Parti Socialiste, mais le donneur d'ordre, Vinci, passe un peu dans l'ombre. Ça, c'est la première grande date. Ensuite, en mars-avril, il devrait y avoir une nouvelle rencontre de tous ces collectifs à Notre-Dame-des-Landes. Et à l'été, il devrait y avoir un grand rassemblement. Je ne vais pas vous dire que Notre-Dame-des-Landes devrait être le Larzac de Jean-Marc Ayrault, mais il est prévu donc à l'été de refaire un grand raout là-bas sur la ZAD. Et il y a plein d'autres dates qui ont été données aussi, le 22 et 23 décembre, pour les départs en vacances, faire des péages d'autoroute Vinci, donc à l'occasion des fêtes de Noël et du Nouvel An. Il y a eu plein d'autres idées, comme construire, que chaque ville construise elle-même une cabane sur la zone occupée, et vice-versa, et soldat de César, dans sa propre ville. il y a l'idée que dès qu'un ministre se déplace quelque part, il soit accueilli avec les honneurs qui lui sont dus. Donc,
alors, on va pas faire tout l'agenda jusque sur les 10 prochaines années, Jean-Pierre. On va peut-être rappeler que déjà pour s'informer sur la lutte au quotidien, il y a le fil d'info sur le site zad.nadir.org. Et d'autre part qu'au niveau parisien, ça continue toujours. Tous les mardis soirs, il y a une réunion du collectif de soutien francilien et parisien. Alors, faut faire attention sur les lieux.
Soit au CICP, soit à la place du travail.
Faut regarder l'atmosphère et voir le lieu de la prochaine AG à chaque fois.
Mais ce soir, mardi, c'est au CICP, 21 rue Voltaire. Et dans les cartons, il est prévu de faire donc un débat public sur... la convergence des luttes et les grands travaux imposés, sans doute fin janvier, je pense.
Ils savent très bien ce qu'ils font, hein. Les dames du carnage, il n'y aura pas de place pour leur manège en béton. Playmobil déchaîné, contre population acharnée. Tir de compost à bout portant versus grenade lacrymogène. Le duel s'établit, pas de prière, mais des barricades à faire chialer Vinci.
C'est là, c'est pour la ZAD, c'est pour les planches de la pointe, c'est pour les cabas dans les arbres. Paraît que la France est sous zéro, les avions vont piquer du C. La vie c'est beau comme un pylône qui tombe, ni qu'un rêve à Vinci, mais des arbres en GAV, pas à tabac des insectes. Ni t'es acheté, ni t'es avé, la vie c'est beau comme une défaite de la machine invincible. Fuck off, comme un plug off, plug off. Celle-là c'est pour la ZAD, c'est bien contre des fusées. La France est sous zéro, les avions vont piquer du C. Ils sont partout nous aussi, ils sont partout nous aussi. Fuck off, comme un plug off, celle-là c'est pour la ZAD. Fuck off, comme un plug off, plug off. Fuck off, ils sont partout aussi.